Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tanno-Larsson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on reçoit Anne-Laure Vaudan. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Julie.
Comment tu vas?
Écoute, très très bien, depuis la Suisse, en tout cas, tout va bien.
Alors, donc Anne-Laure, comme vous l'avez compris, est en Suisse. Est-ce que tu peux dire un peu à notre auditoire ce que tu fais et qui es-tu?
Oui, alors, avec plaisir. Alors, Anne-Laure Vaudan, je vis en Suisse et puis on a monté, ça fait maintenant plus de 10 ans, un cabinet de conseil en expérience client. Donc, notre activité quotidienne, c'est véritablement accompagner des entreprises de toute taille, de tout domaine d'activité sur la thématique de l'expérience client. Donc, un jour, on va être plutôt sur des thématiques stratégiques, de vision d'expérience. Un jour, ça va être de la connaissance client, du design de l'expérience, de la culture, de la gouvernance, voilà, et même de la performance de l'expérience client. C'est véritablement tous des sujets qui nous passionnent et qui nous animent et voilà, qu'on apprécie amener auprès de nos clients. Donc ça, c'est notre domaine d'activité. C'est ce qui nous anime auprès de Nexa Consulting, qui est une petite société basée en Suisse.
Bah, une petite, mais avec beaucoup de valeur.
Merci, Julie.
Alors, donc, tu parlais tout à l'heure de performance. Aujourd'hui, on va parler d'amélioration de la performance CX avec l'intelligence collective.
C'est exact.
Alors, je te laisse expliquer un peu ce que ça veut dire.
Oui, alors déjà, dans cette phrase ou dans ce titre, il y a deux parties qui sont très intéressantes. Il y a la première partie qui concerne la performance CX. Et je crois que pour toute personne impliquée dans ce domaine, dans le domaine de l'expérience client, arriver à mesurer la performance est quelque chose de capital. Tout d'abord, pour savoir où est-ce qu'on se situe, pour savoir qu'est-ce qui peut être amélioré. Et puis aussi, pour savoir, est-ce qu'on a investi aux bons endroits? Est-ce que les budgets qu'on a vraiment investis en expérience client ont un impact, donc ont un impact et nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça, c'est la première partie de la phrase. Et la deuxième partie, c'est l'intelligence collective, un thème qui m'est très, très cher, car je crois véritablement à l'activation des collaborateurs et aussi, disons, tout ce qui est centré sur l'humain et arriver à activer l'intelligence collective pour créer un maximum de valeur. Parce qu'au final, si on veut être performant en expérience client, je pense qu'on doit arriver à créer de la valeur tant pour l'entreprise que pour les clients.
Exactement, totalement. Alors, donc, ça part de quoi? Comment on commence à faire ça?
Alors, comment est-ce qu'on commence? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui revient très fréquemment. Comment est-ce qu'on commence? Je pense que la première chose à faire, c'est déjà vouloir mesurer la performance. Où est-ce qu'on se situe par rapport à l'expérience qu'on propose à nos clients? Et typiquement, ça peut se faire avec un sondage. On entend beaucoup parler d'indicateurs tels que la satisfaction, le NPS qui correspond à la recommandation, l'effort à fournir pour interagir avec une entreprise. Donc voilà, ça commence souvent par un sondage. Et grâce aux résultats d'un tel sondage, on va sentir, on va voir, on va avoir des signaux qui nous disent que sur certains thèmes, on a un potentiel d'amélioration ou on a ce qu'on pourrait appeler un point critique. Mmh. Et une fois qu'on arrive à détecter ce point critique, c'est là que commence véritablement ce processus d'amélioration continue qu'on va devoir mettre en place et qu'on va devoir donc co-créer, je dirais, avec les clients et puis l'entreprise. Alors, on a beaucoup réfléchi chez Nexa, comment est-ce qu'on pouvait créer un processus qui était relativement simple et surtout réplicable en entreprise. Mmh. Parce que très souvent, on nous demande d'intervenir en entreprise, mais avec un processus qui est relativement simple et qui ne prend pas des mois et des mois.
Ouais.
Et on s'est dit, ce que l'on peut essayer de faire, c'est de faire ce processus en des étapes qui sont relativement clairement définies et qu'on peut répliquer. Donc, la première étape, une fois qu'on a fait le constat de ce qui devait être amélioré, c'est véritablement arriver à comprendre en détail, approfondir, quelle est la problématique sur laquelle on doit travailler. Ça, c'est l'étape numéro une. La deuxième étape, on va véritablement essayer de chercher des solutions quand on aura trouvé le défi qu'on doit relever. Mmh. Et puis, la troisième étape, c'est véritablement définir comme une sorte de roadmap sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qui doit le mettre en place, et puis quels sont les indicateurs qu'on doit suivre à nouveau pour savoir si on a fait les bons choix dans les solutions qu'on veut apporter. Et pour ce faire, on utilise un outil qui est très connu chez tous les experts de l'expérience client, c'est le parcours client. Ouais. Et on va passer à travers un parcours client qu'on appelle actuel, qui va mettre justement en évidence ce qui fonctionne peut-être moins bien, vers un parcours client qu'on dira futur, idéal. C'est celui vers lequel on veut tendre. Et pour essayer de communiquer facilement en interne, on utilise ce parcours client futur ou idéal comme outil de communication. Ce parcours va faire office de roadmap et d'outil de communication pour vraiment aussi arriver à inculquer au niveau des collaborateurs que l'expérience client, elle utilise des outils tels que le parcours client. Mais ce parcours client, c'est pas de l'art pour l'art. C'est aussi un outil qui peut être utilisé pour communiquer et puis pour tenir une sorte de roadmap. Donc voilà, dans les grandes lignes, les différentes étapes de ce processus d'amélioration qu'on utilise en trois étapes, qui est le constat avec l'approfondissement de la problématique, ensuite l'idéation et puis la roadmap avec toutes les idées qu'on retient et où on intègre les notions d'indicateurs et de responsables pour l'implémentation.
Alors, faisons une pause un peu sur le parcours client, ok? Et puis, explique-nous ce que ce n'est pas.
Explique-nous ce que n'est pas le parcours client. Alors, le parcours client, c'est déjà pas des données qui volent, disons, à droite et à gauche. Ce n'est pas un rapport qui fait 50 pages. C'est véritablement quelque chose de structuré et de structurant. Et c'est ça qui est appréciable sur un outil tel que le parcours client, parce que on a un cadre dans lequel on navigue. Et ce que l'on fait, c'est qu'on prend la connaissance client et on l'intègre dans ce cadre. Et c'est ça qui rend, au fait, ce parcours client utile et performant, j'aurais tendance à dire. Peut-être que, juste encore une chose par rapport à ce parcours client, ce que ce n'est pas, c'est des données qui volent, mais néanmoins, un parcours client s'appuie sur des données. Voilà. C'est-à-dire, si on veut vraiment être percutant et utiliser cet outil, on doit s'appuyer sur de la donnée client. On peut très bien imaginer de faire des proto-parcours, donc c'est-à-dire des parcours qui ne s'appuient pas sur de la véritable donnée qualifiée au niveau des clients, mais il est toujours préférable de s'appuyer sur de la donnée qualifiée. Et au fait, c'est comme on dit, c'est une cartographie, c'est-à-dire qu'on illustre la connaissance client. Donc voilà, ce n'est pas des données qui volent, ce sont des données qui sont structurées dans un cadre qui permet d'illustrer, en fait, la connaissance que l'on a de nos clients.
Et est-ce qu'on peut dire aussi à ce moment-là que ces données-là, elles viennent aussi de la voix de nos clients, vu que ce sont des données clients?
Alors, définitivement, en fait, c'est comme je l'ai dit avant, on débute par un sondage qui va nous dire, ah, là, on sent qu'il y a un signal ou peut-être on a une insatisfaction. De là, on va approfondir typiquement ce signal, ce point qu'on pourrait identifier comme irritant. Et là, on va s'appuyer sur la voix des clients. Et de notions quantitatives rattachées à des indicateurs, on vient à des notions de recherche qualitative où on va aller chercher véritablement la voix du client. Et pour avoir cette voix du client, on a une quantité de données déjà en interne, des données, des feedbacks de clients qui sont sollicités ou non sollicités. Typiquement les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations aussi dans les outils, dans les CRM qui se trouvent en interne. Et puis aussi, on peut vraiment monter et mettre sur pied une recherche client qualitative sur ce thème spécifiquement. Et là, j'aimerais vraiment dédramatiser parce que très souvent, je rentre en entreprise et on a l'impression que de faire de la recherche auprès de nos clients, c'est énormément de travail et on n'ose pas le faire. Soit c'est beaucoup de travail, soit on n'ose pas le faire. Je m'explique. C'est beaucoup de travail parce que il faut préparer un fil rouge, il faut prendre des rendez-vous. Oui, effectivement, c'est le cas. Mais on peut très bien faire typiquement un fil rouge qui est simplifié pour que chaque collaborateur puisse le faire à l'aide d'un petit coaching. Parce que c'est tellement riche d'aller rencontrer les clients. Les collaborateurs souvent me disent, c'est pas que ça fait trop de travail, c'est que c'est un peu, ça fait peur.
Ouais.
J'ai peur parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller au contact avec les clients. Mais par contre, le retour que j'en ai, c'est la richesse et la qualité de l'échange qu'on peut avoir avec un client. Ça apporte beaucoup de valeur pour un collaborateur. Donc, je crois que les rôles des experts CX, des responsables CX, c'est vraiment de dédramatiser et d'inciter les collaborateurs en interne d'aller au contact avec les clients. Et avec juste quelques questions clés, on est capable d'aller capter cette voix du client qui sera complémentaire à des feedbacks sollicités ou non sollicités que l'on a dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose qui est très, très importante parce que c'est vraiment une création de valeur pour les collaborateurs aussi.
Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi le fil rouge? Parce que je pense qu'il y en a.
Alors oui, alors un fil rouge, c'est un guide d'entretien. C'est ce que quand on va refaire un entretien, on dira si c'est un entretien qui est semi-structuré, parce que c'est souvent des entretiens qualitatifs, on va dire semi-structurés, ben on pose quelques questions pour être sûr d'atteindre les objectifs que l'on a par rapport au signal de points irritants qu'on a détecté.
Ouais.
Et puis, ce fil rouge ou ce guide d'entretien, ben, ça va nous permettre de garder un petit peu le fil de l'entretien qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on l'appelle fil rouge. Ça va nous donner un peu une colonne vertébrale. Ouais. Néanmoins, ben, les bonnes pratiques, c'est toujours le client qui va nous transmettre ces informations. Et nous, on va plutôt être en rebond, une fois qu'on a écouté véritablement ce qu'il voulait nous partager. Et ça, c'est capital, cette voix du client. Et les informations qu'on peut capter, c'est véritablement la base pour créer ce parcours et puis pour être capable d'améliorer la situation et d'être plus performant en termes d'expérience.
Bien.
Ensuite, peut-être si je peux rajouter,
vas-y,
aussi la voix des collaborateurs qui est vraiment très riche et qui crée de la valeur. Quand je vous ai dit en intelligence collective, il faut qu'on arrive à mettre aussi nos collaborateurs au centre de l'attention et puis du processus d'amélioration. Et plus on va les intégrer rapidement dans la réflexion, je pense que plus les résultats seront intéressants, vont créer de la valeur dans l'entreprise, et surtout, l'acceptation sera d'autant plus facile. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on monte ce processus, dès le début, on va leur demander ce qu'ils en pensent sur cette thématique, et quels sont les retours, qu'est-ce qu'ils entendent des clients sur cette thématique. Et comme ça, on va concilier la voix du client avec la voix des collaborateurs pour avoir un maximum de connaissances. Et toute cette connaissance, shake it, shake it, shake it, et on l'installe sur un parcours qui aura été le fruit de ce travail de recherche.
D'accord.
Donc voilà. Et ça ne dure pas très longtemps. Peut-être, Julie, encore un point.
Oui, vas-y.
Il ne faut pas s'imaginer que ça dure des mois et des mois. Je pense que si on travaille de manière agile et très pragmatique, ça peut aller assez vite pour monter cette première étape.
Non seulement ça crée la connaissance du client, ça crée aussi l'engagement des collaborateurs, d'après ce que tu dis.
Parfaitement, tout à fait. Et surtout, on anticipe la suite, parce que si on veut un changement dans l'entreprise, ben, il faut qu'ils acceptent. Donc, s'ils sont partie prenante,
voilà,
et qu'on stimule leur intelligence et qu'on arrive à les activer en amont du processus d'amélioration continue, mais ce sera nos ambassadeurs le jour où on veut mettre en place une nouvelle expérience ou qu'on veut corriger une expérience existante. Donc, on a tout intérêt à les intégrer le plus vite possible dans le processus.
Parce que ça facilite la gestion du changement.
Définitivement.
Dès le départ.
Alors, je crois que ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne les entreprises et je crois que l'expérience client s'intègre de plus en plus dans une démarche de changement et de change management, la gestion du changement. Parce qu'on peut installer toutes les mesures d'amélioration que l'on souhaite, mais si les collaborateurs ne portent pas l'expérience, malheureusement, le client ne ressentira pas l'expérience que l'on souhaite lui offrir.
Parfait. Totalement. Je suis toujours en accord avec toi, n'est-ce pas? Alors,
à la fin de cette première étape, Julie, on a donc ce parcours. Comme on a dit, on a défini un parcours. Et très clairement, on arrive à voir, on a fait une sorte de deep dive par rapport au signal qu'on avait. Et on sait ce qui se passe au niveau des points irritants. Et peut-être qu'on en aura découvert 2 ou 3 qui sont très spécifiques à la situation qu'on analyse. Parce que souvent, on n'analyse pas un parcours global, mais on va prendre une phase du parcours. Par exemple, je sais pas, l'onboarding.
Ouais.
Les premières utilisations d'un produit ou d'un service. Et puis, on va vraiment faire un focus sur cette phase-là et se rendre compte peut-être les 2 ou 3 points qui ne fonctionnent pas.
Alors, ce qu'on rappelait à ce moment-là, c'est que pour faire le parcours, il faut avoir un objectif précis. Pas juste faire un parcours pour faire un parcours.
Alors, normalement,
oui,
tout à fait. Il faut un parcours, il faut un objectif. Soit on définit qu'on fait un parcours global, soit on définit un objectif avec un cas d'usage, avec où est-ce qu'on débute, où est-ce qu'on finit. Et puis, idéalement, ou en tout cas, normalement, dans les bonnes pratiques, Il nous faut un persona. Pour qui, quel type de profil on veut faire ce parcours? Parce que si on fait sur un type de persona ou un autre type, les, par exemple, les points de contact, les canaux qu'on va utiliser vont changer.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'on doit définir un cadre qui est véritablement quel est le cas qu'on analyse et pour quelle typologie de clients est-ce qu'on veut faire ce parcours.
Parfait. Alors, donc là, on a fait notre parcours. La prochaine étape, c'est quoi?
Ben, une fois qu'on a terminé notre parcours, on sait quels sont les défis qu'on doit relever.
Mmh.
Puisqu'on va regarder dans cette fameuse ligne qui s'appelle les points irritants, mmh. ou l'expérience, on se rend compte où on a peut-être un client qui est plus insatisfait et qui va nous dire qu'est-ce qui a bloqué, puisque dans la recherche que l'on a faite, dans l'approfondissement, il nous l'aura dit. Mmh. Donc, on va définir un défi. Et puis là, dans toutes les, peut-être que voilà, les, dans les méthodes de design thinking, il y a un outil que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle la question comment pourrions-nous. Mmh. Et ça, j'encourage beaucoup les entreprises parce que quand on a des points irritants, on est très orienté sur du négatif. Alors que nous, on veut trouver des solutions.
Mmh.
Donc, on a tout intérêt à transformer un point négatif en un défi positif tourné sous forme de question. Parce qu'il est tellement plus simple de répondre à une question que de tourner autour d'un point négatif.
Ouais.
Si on prend un exemple qui est manque de transparence, qui mmh. pourrait être un point irritant, ben, si on le tourne plutôt dans une phrase, comment pourrions-nous renforcer la transparence, blablabla, blablabla, pour une typologie de client,
ouais.
ben, la réponse qu'on peut y apporter est souvent plus simple que si on essaye de se concentrer sur un aspect négatif.
Ouais.
Donc, j'encourage vraiment toutes les entreprises, quand elles ont détecté un point irritant ou un point critique, de vraiment transformer cela en point positif.
Parfait.
Donc, si on regarde ce parcours, on va définir un, deux, trois. En règle générale, si on travaille déjà sur trois points, trois défis, c'est déjà beaucoup.
Mm-hmm.
Et puis, sur ces trois défis, ben, on va créer vraiment maintenant des ateliers d'intelligence collective pour essayer de trouver les solutions. Et là, on va se baser sur des méthodologies d'idéation. Et là, les techniques, on va vraiment utiliser différentes techniques. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la méthode du 6-3-5, qui est un exercice de brainwriting.
Mm-hmm.
Et j'insiste souvent aussi dans les entreprises sur la notion du brainwriting, qui est souvent beaucoup plus performant que le brainstorming, dans la mesure où les voix les plus faibles
ont pas entendre.
Voilà, elles se font entendre, exactement. Et c'est très important quand on travaille en intelligence collective que chaque voix compte et que même des personnes qui ont peut-être qui sont plus timides puissent s'exprimer librement. Et donc, le 6-3-5 utilise la méthode d'intelligence collective et le rebond, qui sont deux éléments importants pour arriver à générer un maximum d'idées. Donc ça, c'est un outil qui est très, très performant. Il y a un autre outil qu'on peut faire en amont de la phase d'idéation et de ces techniques de brainwriting ou bien en tout cas de génération d'idées, c'est l'analyse des causes. Parce que l'analyse des causes va aussi nous donner des explications sur un point irritant.
Ouais.
Alors, je vais pas aller dans les détails, mais typiquement, le service blueprint, j'encourage beaucoup de monde à creuser aussi le service blueprint qui relie au fait la perspective du client avec voilà, les évidences pour le client sur quels sont les canaux, quelles sont les évidences qu'il a, et puis qu'est-ce qui se passe en interne, en termes de processus, en termes d'outils, en termes de collaborateurs qui interagissent. Et quand on analyse aussi ce qui se passe dans les coulisses, ben parfois on découvre qu'il y a des points bloquants qui ont un impact direct sur l'expérience d'un client. Et en analysant ces causes, ben parfois on arrive à débloquer des situations et améliorer la situation très facilement avec des quick wins, sans forcément mettre en place des gros projets.
Ouais.
Donc, j'encourage aussi, avant de débuter cette phase d'idéation avec des multiples techniques de brainwriting et ainsi de suite, d'analogie, de voilà, il y a plein d'idées. Et là, vous allez trouver sur Internet de grandes sources d'inspiration et des outils qui peuvent être utilisés. Mais en amont, réfléchissez aux causes. Et le service Blueprint est un outil qui est très utilisé, mais beaucoup plus simplement, si vous êtes sur un petit atelier et que vous voulez pas quelque chose de trop technique, les 5 pourquoi. Posez-vous 5 fois pourquoi est-ce que c'est un problème.
Ouais.
Et puis, peut-être qu'avec cette méthode-là qui prend exactement 10 minutes, je pense, vous allez au moins aller vraiment à la racine, à la cause même de la problématique, pour être sûr de travailler sur la cause et non pas sur la conséquence.
Ouais.
Donc, dans cette phase-là, on est en phase d'analyse de ce qui se passe avec des outils comme le service Blueprint ou alors d'autres outils tels que les 5 pourquoi. Et ensuite, de l'idéation en intelligence collective où tout le monde contribue à trouver des pistes. Et là, on va utiliser véritablement les techniques du design thinking qu'on a tous appris avec, par exemple, le double diamant. On va générer un maximum d'idées, on diverge et ensuite, on converge. Et là, de nouveau, avec des méthodes typiquement on vote avec des gommettes pour que chacun ait un droit de vote et que c'est pas celui qui a le plus d'influence dans le groupe qui va faire passer son idée. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour que si on travaille en intelligence collective et qu'on invite des collaborateurs, ils aient l'impression d'avoir été entendus quand ils sortent de cet atelier, parce que sinon, ils ne reviendront plus. Oui. Donc, l'intelligence collective, c'est très intéressant, c'est très performant comme outil, mais il faut que ça soit structuré de manière, on va dire, correcte et adéquate pour que les gens se sentent à l'aise dans ce cadre.
Super.
Voilà.
Alors, une fois qu'on a commencé notre idéation, là, tu parlais tout à l'heure aussi de... tu parlais tout à l'heure de mesures.
Oui.
De KPI. À quel moment on commence à en déterminer?
Alors, une fois qu'on a défini les idées, on a un catalogue d'idées quand on a fini cette phase d'idéation. Et là, on connaît à peu près la désirabilité de ces idées, puisqu'on s'est basé sur ce que nous ont dit les clients.
Ouais.
Donc, on plug ces idées par rapport à leur désirabilité. Mmh. Et comme on sait très bien dans l'expérience client, il y a quand même d'autres aspects. Il y a la faisabilité, il y a la viabilité. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire, il y a la durabilité, qui sont des dimensions supplémentaires que l'on doit prendre en considération. Mmh. Donc, on doit passer par une phase d'analyse des idées, des principales idées qu'on aura déjà priorisées un petit peu avec l'équipe de projet et avec les personnes qui ont participé à ces ateliers. Et là, on va devoir passer par cette phase d'analyse. Et une fois que cette analyse est terminée, il en ressort. Alors là, typiquement dans cette phase d'analyse, en toute franchise, nous, on utilise des fichiers Excel.
Mm-hmm. Okay.
On a des scores pour chacune des dimensions.
Mm.
Et la désirabilité, c'est un axe très, très important, c'est-à-dire quel est l'impact qu'on a sur le client. Et là, c'est un axe qu'on va avoir sur notre matrice. Et puis, quel est l'impact que ça aura sur l'entreprise.
Mmh.
Et là, on va parler plutôt d'impact en termes, ou bien quel est l'effort qu'il va falloir fournir pour arriver à délivrer tout ça. Et vous imaginez qu'au final, si on fait une matrice en deux axes, on va avoir une matrice impact-effort et ça va nous permettre de savoir quels sont les projets majeurs et quels sont les quick wins qu'on peut implémenter.
Rapidement.
Et de là, une fois qu'on a terminé cette phase-là, on peut créer ce qu'on appelle le parcours futur qui va correspondre à notre roadmap.
Ouais.
Et là, on retrouve nos collaborateurs qui ont fait cet atelier d'idéation, puis on va leur dire, on a fait cette analyse. Et quand on a fait l'analyse, on s'est rendu compte que les idées que vous avez eues, il y en avait certaines qu'on pouvait considérer comme des quick wins, et il y en avait d'autres qu'on considérait plutôt comme des projets majeurs. Et maintenant, à nous de positionner les idées et ces projets dans le parcours futur. Et on redessine un parcours idéal. Et dans ce parcours idéal, on va changer un tout petit peu les lignes que l'on va avoir dans le parcours. Et tout en haut, on va commencer par exprimer quelle est l'ambition qu'on a en termes d'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut proposer à nos clients comme expérience. Et là, typiquement, sur chaque étape du parcours, on va mettre des mots-clés. La simplicité, la personnalisation, la transparence. Et puis ensuite, les idées qu'on aura qu'on va mettre en dessous dans les différentes étapes, elles doivent soutenir les grands mots-clés qu'on aura définis comme ce qu'on veut livrer comme expérience sur cette thématique, sur ce cadre, à nos clients. Donc ça, c'est la première ligne. Ensuite, on va retrouver les canaux, bien évidemment. Et puis ensuite, les actions que doivent réaliser le client, sur quel canal. Et ensuite, on va avoir donc quelles sont les actions que nous, en tant qu'entreprise, on doit mettre en place à court terme, à moyen terme et à long terme. Et court terme, moyen terme, long terme, on va s'appuyer sur la matrice qu'on a fait en amont pour injecter les idées sur la bonne ligne.
Ligne.
Une fois qu'on a défini ce court terme, moyen terme, long terme, on a une ligne supplémentaire qui s'appelle « Qui est responsable ?» Et on va définir sur chacune de ces actions le responsable en interne ou les co-responsables des différentes actions à mener. Et la dernière ligne qu'on va ajouter, ce sont les indicateurs. Et on va indiquer quels sont les indicateurs au minimum par étape que l'on va suivre pour se rendre compte de la performance des mesures correctives ou des nouvelles expériences qu'on a créées. Donc voilà comment on revient sur ces indicateurs. Et puis Julie, ben, inutile de te dire qu'une fois qu'on a posé ces indicateurs, ben, on va potentiellement modifier nos sondages pour arriver à mesurer les indicateurs qu'on aura définis comme pertinents sur ce parcours. La boucle est bouclée. Et puis ensuite, on met en place ben, justement ce processus d'amélioration continue. On va passer toujours de cette manière-là et on va adapter. Donc, on va écouter ce que nous dit le client. On va peut-être, on n'est pas toujours obligé d'aller rechercher de nouveau de la voix client parce que on peut simplement peut-être s'appuyer sur les données que l'on a déjà. On refait de l'idéation, de la faisabilité et on adapte le parcours futur qui est notre roadmap et puis que l'on fait vivre chaque année.
Tu as quand même résumé ça assez succinctement, c'est super bien. Alors, on a parlé de la responsabilisation. Ce que ça veut dire, c'est que ça implique quand même un peu tout le monde dans l'entreprise. Donc, on ne le fait pas juste entre nous, l'équipe de l'expérience client ou le consultant avec le département qui a fait rentrer le consultant dans l'entreprise. Donc, c'est at large quand même.
Alors, c'est effectivement, c'est de nouveau une question de change. Si on veut que le changement opère et qu'il y ait une acceptation en interne, on a tout intérêt d'intégrer différents métiers autour de la table sur la thématique que l'on veut traiter. Ça, c'est quelque chose de capital. Et j'irai même plus loin. Souvent, c'est des projets qui peuvent être menés par le responsable CX en interne dans l'entreprise. Mais j'aime à dire ou je me rends compte dans les projets que l'on accompagne que si on a une co-responsabilité du projet, c'est-à-dire un responsable métier qui est porteur du processus, on revient sur l'idée de l'onboarding. Si on traite le processus de l'onboarding, qui est responsable de l'onboarding dans l'entreprise? Cette personne-là, pour moi, doit être co-responsable de ce projet qu'on doit avoir. Parce qu'elle est owner, elle est vraiment l'owner de ce parcours-là. Et c'est le binôme entre le responsable CX et le responsable de métier qui doit gérer ce projet d'amélioration continue pour que ça soit un succès. Ça, c'est pour moi véritablement un facteur de succès.
Et c'est là vas-y d'abord.
Et intégrer véritablement une large équipe avec différents profils, des gens qui ont des contacts directs ou indirects avec les clients sur cette phase d'onboarding.
Et alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je n'arrête pas de dire aux gens que la fonction expérience client, c'est d'abord une fonction support. Est-ce que tu es d'accord
avec... De plus en plus, une fonction support, ça peut être une fonction qui est très proche de la direction, qui reste transverse néanmoins, mais qui peut être très basé au niveau de la direction parce que ça peut être considéré comme un processus stratégique. Néanmoins, on a de plus en plus une intégration dans l'opérationnel.
Exactement.
Voilà. Et dans
on ne peut pas tout seul porter tous les projets. On doit le faire avec les autres départements.
Non. Quand on est à la direction, c'est plutôt qu'on s'assure de la cohérence et de l'uniformité globale au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un rôle CX. Par contre, être vraiment impliqué dans l'opérationnel, c'est là qu'on va créer le changement et qu'on va vraiment accompagner les équipes métiers pour faire de l'amélioration continue. Et quand on parle de processus d'amélioration continue, plus on est proche des métiers, plus on va avoir un impact. Les deux rôles et les deux fonctions sont importantes, mais c'est véritablement sur des niveaux différents. On est plutôt sur du niveau stratégique avec une vision. C'est quoi la vision d'expérience qu'on veut avoir sur le marché? Qu'est-ce qu'on veut proposer comme expérience sur le marché et on veut s'assurer que dans toutes les business units, il y ait cette cohérence. Et ensuite, quand on est avec les équipes dans l'opérationnel, c'est là qu'on va véritablement mettre la main à la pâte et qu'on va créer cet impact en les accompagnant pour des processus d'amélioration de l'expérience.
C'est tout le temps qu'on a, malheureusement déjà. Alors, si on veut te contacter, et pour en parler encore et encore, justement, de cette amélioration continue par l'expérience client, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
Alors, le plus simple, c'est peut-être d'aller directement sur LinkedIn, où là, vous allez trouver mon profil, ou alors simplement le site internet nexa.ch, et là, vous allez trouver toutes les informations, que ce soit sur nos services que l'on propose comme activité, mais surtout mes contacts, mon numéro de téléphone, mon adresse email directe. Et puis comme ça, vous allez pouvoir me contacter. C'est avec plaisir. Je suis, comme vous avez certainement vu, quelqu'un de passionné sur le sujet.
Oui.
je partage véritablement volontiers sur cette thématique. Là, je vous ai expliqué dans les grandes lignes, Mais comme je vous ai dit au début, c'est un processus qu'on a voulu réplicable. Donc, on a des modèles, on a créé vraiment des templates et des modèles à chacune des étapes pour que vraiment les entreprises et les gens qui sont intéressés par cette démarche puissent l'utiliser le plus rapidement possible par elles-mêmes. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Il y a aucun souci, je partage volontiers pour que cette démarche soit utilisée le plus fréquemment possible parce que je pense qu'on a tout intérêt si on veut être toujours plus performant en termes d'expérience client et surtout faire preuve d'intelligence collective pour avoir un impact encore plus fort en entreprise.
On mettra les coordonnées de Nexa et de LinkedIn, le lien LinkedIn d'Anne-Laure dans le descriptif du podcast. Merci Anne-Laure. Encore une fois, comme toujours, c'est toujours passionnant de parler avec toi. Merci encore d'accepter nos invitations chaque fois qu'on les fait.
Mais merci à toi, Julie.
Alors, à vous toutes et à vous tous, je dis à la prochaine.